Aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes le 14 mars, bienvenue, voici le journal de Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous, la politique et les réseaux sociaux, le grand amour, Jean Castex, le Premier ministre invité ce soir de la plateforme de jeux vidéo Twitch, objectif toucher les jeunes pour faire passer les messages. La situation hospitalière préoccupante en Ile-de-France, des hôpitaux sous tension, les transferts de malades ont démarré. Un cluster dans une prison à Muret en Haute-Garonne, et puis les handballeurs français quasi qualifiés pour les JO de Tokyo.
Les invités de la matinale à 7h50. Patricia Martin, vous recevrez
la comédienne Zoé Besmond de Senneville pour son journal de mes oreilles. C'est paru chez Flammarion.
Et puis à 8h20, question ce matin à l'historien Pascal Blanchard, spécialiste de l'histoire coloniale et des immigrations. On va le recevoir en tant que président du conseil scientifique de ce qu'on appelle les portraits de France, chargé de mettre plus de diversité sur les futures plaques des rues et autres statues sur la place publique.
France Inter. Jean Castex fera-t-il chauffer les compteurs de Twitch ce soir à 18h? Le premier ministre répondra aux questions quasi sans filtre des internautes sur cette plateforme pour gamers, fans d'ordinaire de jeux vidéo. On l'a compris, les politiques veulent dépoussiérer leur image en s'exprimant via les réseaux sociaux, en plus des médias traditionnels, et également donc toucher ainsi la jeunesse. Une difficile équation d'ailleurs, car ces jeunes fans de ces plateformes s'inquiètent de voir les hommes politiques s'approprier leur espace. Élodie Forêt.
Opération séduction. Depuis plusieurs mois, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, Emmanuel Macron lui-même, maintenant Jean Castex, multiplie les incursions sur les réseaux favoris des jeunes. Instagram, TikTok, Twitch. Une très bonne idée pour Gaspard Ganzer, l'ex-conseiller communication de François Hollande, prêchait déjà à l'époque pour ne pas faire que des médias traditionnels.
Moi, quand je travaillais avec François Hollande avait donné une interview, par exemple, à Combini. À l'époque, ça avait été très critiqué, mais j'étais certain que c'était nécessaire si on voulait aussi parler à la jeunesse. Après, il faut le faire avec sincérité. C'est une question de ton. Il faut que les hommes politiques comprennent qu'il n'est pas naturel pour eux d'aller sur ces réseaux, que c'est bien d'y aller, mais qu'il faut y aller avec l'humilité et la légèreté aussi, peut-être, qui s'impose.
Trouver le ton juste, adéquat, exercice réussi la semaine dernière pour François Hollande, qui, aux côtés de Samuel Etienne, a multiplié les boutades, ici contre la chanson des influenceurs McFly et Carlito, défié par Emmanuel Macron.
Vous avez regardé la chanson ou pas?
J'ai écouté la chanson.
Vous avez pensé quoi?
Il vaut mieux faire un geste barrière. Donc, y compris par rapport à la chanson.
Mais ce qui est simple pour un ex-président ne l'est pas forcément pour un Premier ministre en exercice qui devra combiner le sérieux de sa fonction au lâcher-prise que requiert l'émission. Le tout face à un public loin d'être conquis, de nombreux utilisateurs de Twitch ayant dénoncé cette semaine l'arrivée massive des politiques sur leur plateforme.
Jean Castex donc ce soir sur Twitch à 18h avec l'animateur de questions pour un champion, Samuel Etienne. Un déjeuner dominical en famille sans doute pour de nombreux résidents d'EHPAD ou le bonheur retrouvé pour ces 600 000 pensionnaires quasi à l'isolement depuis un an. Qu'ils soient vaccinés ou non, ils peuvent désormais recevoir dans leur chambre, sortir à l'extérieur après l'assouplissement du protocole sanitaire. Ça, c'est pour la théorie. Reste que dans la pratique, beaucoup d'établissements comptent attendre encore avant d'appliquer ces nouvelles règles. Attendre peut-être que la situation s'améliore. 29 759 cas supplémentaires hier en Ile-de-France, 263 nouvelles entrées en réanimation. Le variant anglais représente désormais 70% des cas, un variant responsable de davantage de formes graves du Covid. La situation est particulièrement préoccupante en Ile-de-France. Cette pression sur le système hospitalier conduit désormais à des évacuations de malades vers des régions plus sereines. Ainsi, trois premiers patients ont rejoint hier des hôpitaux de l'ouest du pays, Nantes, Angers, Le Mans. Trois ou quatre autres devraient être transférés aujourd'hui. Des transferts ponctuels, avant peut-être des départs plus massifs à bord d'un TGV. Le directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
C'est une logistique tout à fait difficile, importante et lourde à mettre en œuvre. Donc on se met en ordre de bataille pour assurer cette logistique. La situation l'exige, hein. On doit absolument libérer des lits de réanimation. Le but est de pouvoir libérer des lits de réanimation pour accueillir éventuellement de nouveaux patients qui ont besoin de réanimation Covid dans les semaines qui arrivent. Donc ces deux options, c'est d'ouvrir de nouveaux lits de réanimation et pour cela on a besoin de personnel et donc on a besoin de déprogrammer d'activités moins urgentes pour transférer ce personnel pour armer de nouveaux lits de réanimation et soulager directement les lits de réanimation en transférant des patients vers la province.
C'est dans ce contexte de tension hospitalière que le vaccin AstraZeneca est arrivé en pharmacie. Officiellement, c'est à partir de lundi que les pharmaciens vont pouvoir vacciner. Certains ont d'ailleurs déjà commencé. 6700 officines ont reçu le produit avant le week-end. L'école est la dernière chose à fermer. Alors que plane la menace d'un reconfinement, le ministre de l'Éducation nationale veut rester optimiste concernant les écoles. Dans Le Parisien dimanche, Jean-Michel Blanquer ajoute que le bac devrait se tenir dans des conditions normales au mois de juin.
Le centre de détention de Muret en Haute-Garonne est sous haute surveillance après la découverte d'un gros foyer de contamination.
Peut-être le plus important jamais connu dans la région toulousaine. 41 cas du variant britannique détectés sur les près de 600 personnes détenues dans l'établissement. Entre 5 et 6 surveillants seraient également touchés. Plusieurs sessions de dépistage ont eu lieu la semaine passée. Marion Klein, c'est une situation tout à fait inédite dans ce centre de détention.
Le Covid, visiblement, s'est propagé très rapidement, alors ça peut s'expliquer facilement, déjà parce qu'il s'agit du variant britannique, particulièrement contagieux, mais aussi parce qu'à Muret, le centre de détention fonctionne en porte ouverte, ça veut dire que les détenus peuvent circuler de manière plutôt libre en dehors de leur cellule. Évidemment, tout ça c'est fini. Christine Nicolas, représentante du syndicat pénitentiaire des surveillants.
Des mesures ont été prises rapidement pour isoler les détenus qui étaient positifs, donc à fermer l'ensemble des bâtiments, moi, un tiers de l'établissement. Le fait de fermer les portes et de se retrouver comme une maison d'arrêt, au fur et à mesure, les détenus comprennent que c'est un petit peu pour leur sécurité, pour éviter que ça se propage. Bon, après, c'est quand même assez tendu.
Pour faire face notamment à ces tensions, le nombre de surveillants a été doublé dans les ailes concernées. Une nouvelle session de dépistage est prévue la semaine prochaine.
Deux jeunes radicalisés, soupçonnés chacun de projets d'action violente, notamment contre des militaires, ont été mis en examen hier par des juges antiterroristes dans le cadre de deux enquêtes distinctes. Ils ont été écroués. L'un des jeunes était originaire de Mantes-la-Jolie en région parisienne et l'autre de Marseille. Aux États-Unis, beaucoup d'Américains désormais vaccinés se remettent à voyager en avion. 1 350 000 passagers, nombre record dans les aéroports depuis mars 2020. Pour autant, cela représente toujours près de la moitié seulement du volume habituel pour cette période. Aux États-Unis, 11% de la population est aujourd'hui vaccinée. 69 millions ont déjà reçu une dose et 37 millions les deux doses.
En Iran à présent, le calvaire de cette femme et ça dure depuis 5 ans.
Nazanin Agari Radcliffe ne peut pas quitter l'Iran depuis son interpellation en 2016. Cette citoyenne irano-britannique a été jugée et condamnée pour complot contre le régime, ce qu'elle a toujours nié. Après avoir purgé une peine de 5 ans, elle revient devant un tribunal aujourd'hui. Cette enseignante risque une nouvelle condamnation après des années de torture. Richard Place à Londres.
Quand elle est arrêtée à l'aéroport il y a 5 ans, Nazanin Agari Radcliffe est avec sa fille âgée de 22 mois à l'époque. Sa fille, désormais à Londres avec son père, qui va devenir le principal objet de ses tortures pendant ces années de détention. Ses geôliers lui racontent qu'elle ne la verra plus ou lui font entendre les voix de leur propre petite fille. Des sévices qui ne s'arrêtent pas là. On l'empêche de dormir avec une télévision qui hurle à côté d'elle ou des lumières allumées pendant son sommeil. Enchaînée, les yeux bandés, à l'isolement, rien ne lui est épargné. L'humanitaire irano-britannique souffre aujourd'hui d'un syndrome post-traumatique grave et chronique, d'une dépression majeure, d'un trouble obsessionnel compulsif. Ce sont des médecins indépendants qui viennent de poser ce diagnostic. Actuellement assignée à résidence, elle risque une nouvelle condamnation. Mercredi dernier, Boris Johnson a exigé sa libération lors d'une conversation téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Londres, Richard Place, France Inter.
Jean-Claude Fasquelle, grand nom de l'édition française, est décédé à l'âge de 90 ans. Il a dirigé les éditions Grasset pendant des années sous sa direction de grands noms de la littérature comme Umberto Eco ou le prix Nobel Gabriel Garcia Marquez avait signé chez Grasset et plus récemment Virginie Despentes. Jean-Claude Fasquelle avait également été le directeur du mensuel Le Magazine Littéraire. Ils y sont presque au JO de Tokyo, les handballeurs français. Après leur large victoire hier soir à Montpellier face à la Tunisie 40-29, les Bleus peuvent déjà commencer à préparer leurs valises pour les JO, mais presque seulement, car malgré leurs deux victoires en deux jours dans ce tournoi de qualification olympique, ils devront attendre ce soir pour valider leur billet face au Portugal. Même une défaite suffirait aux Bleus. Ça dépend du nombre de buts, Xavier Monferrand.
N'allez pas dire aux handballeurs français qu'ils peuvent déjà penser au Japon, aux Jeux Olympiques. Tant qu'il y a un risque, aussi infime soit-il, qu'ils ratent finalement l'avion, ils ne préfèrent pas trop se projeter, pas du tout même pour l'ailier Hugo Desca.
En effet, notre ticket n'est pas encore validé et on va combattre jusqu'au bout. Vous savez, le meilleur moyen de ne pas se faire peur c'est de pas calculer. Donc moi, je veux le match clairement pour le gagner et rien d'autre.
Surtout que les Portugais jouent gros. Hein. Une première qualification pour les Jeux Olympiques et une revanche à prendre aussi sur les Bleus qui les ont humiliés au Mondial en Égypte en janvier dernier. Mais les Français, eux aussi, ont des choses à prouver pour le pivot Ludovic Fabregas.
La dernière fois qu'on les a joués, certes, on a gagné, il me semble, de 9 buts sur le dernier Mondial. Mais justement, ça sera une bête un peu blessée. On aura à cœur de se qualifier invaincu aussi, chose qui pourrait envoyer un signal fort, pourquoi pas, aussi à la concurrence.
Et puis ces Bleus ont de l'orgueil. Pas question de rester dans l'histoire du hand français comme ceux qui ont mis fin à la belle histoire d'amour avec les Jeux qui durent depuis Barcelone en 92.
Oui, ne claironnons pas la victoire.
Pas trop vite. Le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et pour les températures cet après-midi, Jean-Michel Golinski, bah ce sera un peu comme hier. Hein.
Exactement, avec un maximum de 17 de la Côte d'Azur à la Corse, 15 dans le Golfe du Lion, 10 à 12 en Rhône-Alpes, dans le sud-ouest et au nord de la Loire, et 7 à 9 degrés dans le nord-est, où les giboulées vont rythmer la journée, s'accompagnant de flocons jusqu'en plaine et de neige à basse altitude sur le relief des Vosges, du Jura, également des Alpes du Nord. Autour de la Méditerranée, le vent turbulent va maintenir un ciel dégagé. Sur le reste du pays, le temps sera variable, généralement plus sec dans le triangle Basse-Normandie-Bretagne-Centre-Val-de-Loire, alors qu'ailleurs, malgré les éclaircies, les averses vont menacer.
Jean-Michel Golinski de Météo France.